Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode.
Il y avait un jour quand j'ai fait une randonnée avec mes parents, et mes parents, je dois dire, je ne viens pas d'une famille très sportive non plus. Ma mère n'a jamais aimé la compétition, elle en fait pas du tout. Mon père, il fait pas du sport proprement dit vraiment, mais on est souvent dehors et lui, par exemple, il coupe du bois pour la maison, donc il est assez costaud, mais c'est pas du sport. Mon frère non plus. Mais on faisait une randonnée et on passait par un de ces refuges et je me souviens que j'ai vu des jeunes qui travaillaient dans le refuge. Je trouvais que c'était un endroit magnifique et je me souviens que je m'étais dit, mais comment on fait pour travailler là? C'est tellement cool. Et je l'avais un peu oublié et après, pendant les études, je me suis rendu compte que je pourrais aussi candidater et peut-être avoir une poste dans un refuge. Après, les refuges chez nous sont un peu différents parce que tout est géré par le club alpin et ce n'est pas des gardiens de refuge qui gagnent leur vie à faire ça, c'est que des membres de jeunes qui travaillent ensemble. Donc, c'est très, très fun. Il n'y a jamais le petit déj à 2h du matin pour les alpinistes. C'est tout le monde mange à 7h du matin et donc, c'est un peu plus cool, on va dire, par rapport à ce qu'on peut trouver. Le travail de gardien de refuge dans les Alpes est souvent vraiment très dur.
Ah ouais? Tu l'as fait un peu?
Non, mais je vois les gardiens de refuge. J'ai eu ce printemps, on en parlera, mais j'ai passé beaucoup de temps en montagne. J'ai passé beaucoup de nuits en refuge et je vois que une saison de gardiennage est vraiment éprouvant.
Qu'est-ce qui est dur?
Je crois qu'il y a beaucoup de choses, mais le fait que, ils n'ont jamais une vraie nuit de sommeil. Ils vont servir le repas de soir. Après, ils font, ils règlent toutes les nuitées et les demi-pensions. Après, ils nettoient tout. Ils vont tout ranger après le repas. Après, ils se couchent et il y a, bon, moi, je fais tel sommeil, donc j'ai besoin de petit déj à 2h. Moi, c'est le petit déj à 3h. Moi, c'est 4h, machin. Donc, je crois qu'il y a surtout ça, qu'il y a un rythme qui est assez frénétique. En plus, ces dernières années, on voit de plus en plus de monde en montagne. Et c'est chouette parce que les gens, ils découvrent le bonheur d'aller en montagne et de passer une nuit en altitude qui est assez magique. Mais ça veut dire que souvent les refuges sont complets. Et donc, quand tu as un refuge avec, je ne sais pas, 70 places et tu fais à manger et à manger le midi, c'est beaucoup, beaucoup de travail.
Ouais, c'est vrai, tu as raison.
Donc, j'admire les gardiens de refuge et je comprends quand en fin de saison, ils peuvent être un peu courts parce qu'ils sont fatigués.
Et qu'ils ont vu beaucoup d'huluberlus parisiens descendre les voir.
Par exemple.
Ok, ben en tout cas, tu fais bien de passer le message, de les remercier, de les encourager. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui écoutent le podcast, donc en plus avec ta venue, je suis sûr qu'il y en a plusieurs par ici qui sont là. Et puis si ben justement vous allez dormir en refuge, soyez polis, soyez courtois, soyez super sympa, parce que effectivement se lever à 2h du matin tous les jours, c'est pas facile. C'est vraiment compliqué.
On peut toujours amener des petits cadeaux aux gardiens aussi, ils apprécient, surtout si c'est en haute altitude, ils n'ont pas accès aux fruits de saison, par exemple. Si on a la forme pour se permettre de prendre quelques grammes de plus, les cadeaux seront bienvenus. Moi, j'ai trouvé.
C'est quoi les bons cadeaux? Attends, du coup, tu nous as dit des fruits. Est-ce que, je ne sais pas, il peut y avoir des cadeaux un peu fun?
J'aimais bien quand je m'entraînais ce printemps. J'allais souvent au refuge des Cosmiques, qui est en haut de l'aiguille de Midi. Donc, pour moi, c'était très peu de distance. Et j'aimais bien amener aux gardiens là, par exemple quand les fraises étaient, il y avait des fraises au supermarché, donc j'amenais des fraises, du bon chocolat, et des fois même juste si c'est très éloigné, il n'y a pas beaucoup de ravitaillement de refuge, d'amener un journal, pour qu'ils puissent avoir quelque chose à lire. Ils peuvent écouter la radio, mais d'amener des trucs que tu peux pas avoir quand t'es en bas de vallée, en haut de montagne, mais tu vois, facilement en bas de vallée.
Ok, écoute, c'est prévu. La prochaine fois que je monte, je prends un bon bouquin et une bonne tablette de chocolat. ça fera toujours plaisir. Donc tu es étudiante, tu fais tes premières grosses randonnées, tes premiers trails. À quoi elle ressemble la montagne dans le Vermont, tu vois? Est-ce que alors là on est à Chamonix, on est au pied du Mont Blanc. Moi je connais très bien les Alpes comme je te l'ai dit. J'ai fait un petit peu aussi les Pyrénées, j'ai fait d'autres montagnes, j'ai fait des montagnes en Afrique aussi au Cameroun. J'ai fait les Grands Lacs au Canada, donc je vois un petit peu ce type de décor. Mais à quoi ça ressemblait par chez toi? Comment tu la décrirais cette montagne?
Je pense que déjà, il faut se rappeler que le Vermont, c'est un mot qui vient du français. C'est les montagnes vertes. Donc là, ça donne déjà une petite idée. Dans le Vermont et dans le New Hampshire, en l'occurrence où il y avait les refuges, ça fait partie de la chaîne des Appalaches, qui est une chaîne de montagnes qui est très 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 vieille. Et donc peut-être il y a, plusieurs, je ne sais pas, 25 millions d'années, ça ressemblait aux Alpes, mais maintenant c'est beaucoup plus arrondi. Le substrat, c'est en granit, donc on a de la roche qui est cristalline, très dure, on voit du quartz, tout ça, mais après il y a des arbres, il y a beaucoup beaucoup d'arbres. Comme ici aussi, on voit que en bas de vallée, on va avoir des arbres comme des érables ou des hêtres, les feuilleux. Ouais, j'arrive.
Les feuilleux.
Et okay. Après, il y a des conifères, le plus en plus qu'on monte, parce que les conditions de vie sont un peu plus rudes. Ce qui est un peu différent, donc il y a ces sommets arrondis et souvent les arbres vont jusqu'au sommet, mais les arbres deviennent de plus en plus petits, parce que les conditions sont très rudes. On peut avoir du vent soutenu très très fort, comme au Québec, on a des températures très très froides et donc les arbres poussent très vite, très lentement, et donc on peut avoir un arbre qui mesure 1 mètre mais qui a 100 ans.
C'est dingue.
Oui, c'est vraiment un décor différent. Après, on enregistre ce podcast au mois d'août, fin août, et bientôt, ça serait l'automne. Et ce qu'il faut imaginer ensuite, c'est que puisqu'il y a tous ces arbres, les érables, en automne, ça change de couleur et c'est rouge, orange, jaune. Wow. Et quand on arrive à monter en altitude, ça ne monte pas plus haut que 1007, je crois, le plus haut. Mais on voit devant soi, des grands forêts comme des tapis, tout coloré. Et c'est vraiment magique.
Waouh, écoute, tu donnes envie.
On peut donner des photos, hein. je montrerai.
On mettra des photos, on incrustera des photos dans les vidéos et tout, parce que ça donne vraiment très, très, très envie. Là, je me projette un peu et j'imagine très bien. C'est dans quel film qu'on voit y a des films qui se passent un petit peu dans ces montagnes
C'est sûr que oui, mais je ne saurais pas en nommer tout de suite.
Je me demande s'il n'y a pas Into the Wild à un moment ou s'il y va pas un peu. Il est plutôt à l'ouest.
Oui, lui, il est en Alaska.
Il est plutôt en Alaska.
Ouais, ouais. Si j'en trouve, je t'y dirai.
Voilà, mais écoute, je vais retrouver quelques photos et comme ça, je pourrai
Souvent, dans les séries, par contre, il y a, dans Friends, par exemple, c'est les vacances quand on part de New York ou de Boston en vacances de ski. Par exemple, ouais. Tu montes dans le Vermont. C'est le coin pour le ski dans le nord-est. Vraiment, il y a beaucoup de ski. Ça produit aussi des très bons skieurs comme Bodie Miller. Michaela Schifrin. Elle vient de Colorado, mais elle est venue faire sport-études dans le Vermont.
Okay.
Parce que en fait, on n'a pas... Enfin, on a de la neige et il fait froid, mais ce n'est pas la poudreuse. Ça fait, si tes auditeurs, s'il y a des skieurs, en fait, il y a, souvent les pistes sont raides et quasiment tout en glace. Donc, ça ne fait pas rêver pour le skieur amateur, mais pour le skieur alpin qui veut aller vite et vraiment maîtriser la technique. C'est un lieu qui est très, très connu pour ça.
Ok. Bah, écoute, merci beaucoup de nous plonger avec toi dans cette culture sportive. Et moi, j'adore ça, en tout cas. Tu vas comprendre les lieux, comment est-ce que les régions se façonnent. Mais du coup, il y a quelque chose que je comprends pas du tout. C'est comment est-ce que dans un décor aussi idéal, comment est-ce qu'Hilary en est venue à s'exiler en France?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.